Europe 1.
Bienvenue dans les interviews de Cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Olympe de Gouges est une héroïne de la Révolution française. Elle s'est battue pour l'égalité et la justice jusqu'à en perdre la tête sous la lame de la guillotine. Bien avant les suffragettes et les diverses vagues de féminisme au XXe siècle, elle s'est engagée pour les droits des femmes, elle a dénoncé leurs conditions et les injustices dont elles étaient victimes. Mais elle s'est aussi fermement opposée à l'esclavagisme et à la peine de mort. Olympe de Gouges était trop en avance sur son temps. Elle aurait pu être une femme d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, après 2 siècles d'oubli, elle revient dans la lumière de l'histoire. Alors qui était-elle? Pourquoi revient-elle maintenant sur le devant de la scène? Je vous emmène au cœur de son histoire pour découvrir ses nombreux combats avec Cécile Berly, historienne spécialiste du XVIIIe siècle et auteure notamment du livre « Guillotinée » paru aux éditions Passé Composé. Bonjour Cécile Berly.
Bonjour Virginie.
Olympe de Gouges, c'est d'abord une femme de lettres qui a mis sa plume et sa verve au service de ses convictions. Mais son plus beau fait d'armes, je pense, c'est la réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui devient la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Pourquoi est-ce qu'elle écrit ça en 1791?
Alors, elle écrit ce texte, cette brochure, tout simplement parce que la question des femmes dans l'espace public ou politique, eh bien, n'est pas du tout traitée, abordée. C'est pas un sujet, en fait, en 1791. On est pourtant en pleine révolution. On est au cœur de la révolution. Enfin, ça y est, quand elle diffuse sa brochure, le roi Louis XVI vient de signer la première constitution écrite de notre royaume. Et pourtant, et elle est évidemment l'une des rares, pour pas dire la seule, à s'interroger sur cette question de l'universalisme et de l'universalité de cette révolution. Où sont les femmes? Quels sont leurs droits? Quelle est leur place dans la cité? Sont-elles condamnées à être, comme on dit, des citoyennes sans citoyenneté? Donc en fait, Olympe va confronter la révolution et celle qui l'a fait, c'est-à-dire pour l'essentiel des hommes, à toutes leurs contradictions.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est offerte à Marie-Antoinette. Elle cherche le soutien de la reine?
Cherche-t-elle réellement son soutien? Je crois que c'est encore plus subtil que ça, parce que contrairement à ce que l'on dit, Olympe est infiniment subtile. C'est quelqu'un qui pense très bien, qui sait construire, argumenter. Elle dédicace la brochure à Marie-Antoinette pour lui proposer, en fait, ni plus ni moins, de racheter sa conduite en tant que femme, parce qu'Olympe est extrêmement lucide sur la nature féminine, sur le rôle des femmes dans l'histoire, et elle lui propose de racheter toutes ses fautes morales, tous ses écarts de conduite, en faisant sienne la question des femmes et de leurs droits. Alors, on ne sait pas si Marie-Antoinette a pu accéder à la brochure. On sait encore moins, bien sûr, si elle a pu la lire. Mais ce qui est certain, c'est que Marie-Antoinette ne s'intéressait absolument pas à la question de la non-place des femmes dans la société et à leurs droits.
Alors justement, c'est quoi la condition des femmes au XVIIIe siècle? Elles ont des droits? Elles sont émancipées? Ou elles dépendent systématiquement d'un homme?
Pour commencer, les femmes au XVIIIe siècle sont d'éternelles mineures. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, d'un point de vue strictement juridique, n'existe pas. Le témoignage d'une femme devant un tribunal ne compte pas. Elle peut témoigner, mais son témoignage n'a pas réellement de valeur. Une femme, de sa naissance jusqu'à sa mort, sera toujours, toujours, ce que, comme on dit, l'éternelle mineure, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas penser, prendre sa vie en main de façon libre et indépendante. Au demeurant, ça ne veut pas dire évidemment que toutes les femmes au XVIIIe vivaient de façon entièrement soumise à l'égard d'une autorité masculine. Mais ça veut dire quand même que très concrètement, et ça il faut le dire, il faut le rappeler, les femmes n'ont aucun droit politique durant tout le XVIIIe siècle, y compris au cœur de la Révolution. Les femmes n'ont quasiment aucun droit civil, voilà, y compris avec la Révolution. Ça veut dire que ce sont, encore une fois, c'est une condition qui est difficile à comprendre dans sa complexité et qui aussi, quand on travaille, ce qui est mon cas, sur ces femmes du XVIIIe siècle, faut bien comprendre que ces femmes qui sont pétries d'ambition, qui vont réussir parce qu'elles sont talentueuses, parce qu'elles ont des compétences, ça veut dire aussi qu'elles vont devoir, toute leur vie durant, braver les interdits qui leur sont faits parce qu'elles sont nées femmes et qu'elles vont aussi devoir développer une énergie, un courage, affronter continuellement, eh bien, des humiliations publiques, la désapprobation générale, de la part des hommes, mais également de la part des femmes.
Toutes ne veulent pas la liberté.
Ah, certainement pas, et je dirais même qu'il y a des hommes au XVIIIe siècle qui ont été bien plus féministes, aussi féministes qu'Olympe de Gouges, et des femmes qui étaient très clairement anti-féministes du temps d'Olympe.
Donc ce que propose Olympe de Gouges, c'est un nouveau contrat social finalement. Elle veut vraiment révolutionner la société.
C'est exactement ça. Alors, elle-même est évidemment pétrie de ses propres contradictions. En rousseauiste qu'elle est, elle propose un contrat social. C'est-à-dire, effectivement, elle propose que les hommes et les femmes adhèrent à un nouveau schéma de société. Elle est rousseauiste. Rappelons que l'homme le plus lu au XVIIIe siècle par des femmes, c'est Rousseau. Et que s'il y a bien un individu, alors qui est par ailleurs génial, hein, sur bien des aspects, la pédagogie, l'éducation, etc. Mais s'il y a un philosophe des Lumières qui était d'une misogynie patentée, c'était justement Rousseau. Donc ça, ça fait partie des contradictions, eh bien, d'une Olympe de Gouges, mais d'autres femmes de la Révolution, je pense évidemment à Madame Roland. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, effectivement, que l'auteur qu'elle a le plus lu, est celui qui veut le moins émanciper les femmes, parce qu'il considère justement que l'enjeu est d'ordre social, sociétal. Une femme émancipée, une femme qui pense, ça veut dire que tout le système social peut s'effondrer.
Alors comment il est reçu ce texte, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 ? Il circule, les gens y adhèrent massivement ou alors ça passe inaperçu ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que Olympe va évidemment veiller à ce que sa brochure, sa déclaration circule, soit diffusée dans les rues de Paris. C'est-à-dire qu'elle l'a fait distribuer. On ne sait pas d'ailleurs exactement le nombre d'exemplaires. Par contre, il faut là être extrêmement clair. La réception est nulle. Ce texte n'intéresse absolument personne. Que ce soit d'ailleurs les hommes, les femmes, que ce soit ces hommes qui sont au sein de l'Assemblée nationale et qui poursuivre la révolution, c'est-à-dire que la réception est totalement nulle. Il faut bien comprendre, déjà je pense que c'est pas inutile de rappeler que le mot féministe n'existe pas au temps d'Olympe. Olympe va mourir sans savoir qu'elle était féministe et qu'un jour elle serait considérée comme pionnière du féminisme. Je pense que c'est vraiment important de le recontextualiser. Et donc cette déclaration, il faut aussi dire les choses, était à ce point avant-gardiste, parce que c'est pas seulement un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, il y a aussi un contrat social d'union libre de l'homme et de la femme, il y a une apostrophe à l'égard des hommes, à l'égard des femmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un raisonnement, et c'est important de le dire, elle pense Olympe de Gouges, elle a un raisonnement d'intellectuel, si j'ose dire, presque de philosophe des Lumières.
Exactement, avec des résonances au XXe siècle, c'est ça qui est totalement passionnant. Mais alors justement, revenons-en à la place des femmes dans cette Révolution française. Le nom d'Olympe de Gouges est revenu sur le devant de la scène, mais qu'est-ce qu'elles ont fait pendant la Révolution ? Elles tricotaient sur les bancs de l'Assemblée ou elles avaient vraiment des idées, hormis Olympe ?
Certaines tricotaient, effectivement, et participaient à, si j'ose dire, cette mauvaise ambiance populaire qui fait partie de la théâtralité révolutionnaire. D'autres ont pensé cette révolution, pas du tout forcément comme Olympe. Je pense que celle qui lui ressemble le plus en termes d'idées défendues, c'est Erouane de Méricourt. Par exemple, toutes les deux qui se fréquentaient hein, dans la vie pensent que les femmes doivent... elles aussi portaient les armes pour assurer le maintien de l'ordre dans l'espace public. Parce que c'est ça qui est extraordinaire avec Olympe. C'est une femme qui pense toujours l'espace public et donc politique, ce qui est totalement, pour une femme, marginale comme système de pensée en son temps. Et il y a d'autres femmes alors qui vont penser la révolution, mais pas du tout la place des femmes. Je pense évidemment à Madame Roland. On ne sait pas si Madame Roland et Olympe, on n'a pas de source qui nous l'attestent, si elles étaient en interaction, si elles ont pu se rencontrer, échanger. Mais ce qui est certain, c'est que par exemple, une Madame Roland ne pense pas du tout la question des femmes et de leurs droits. Elle va même encore plus loin. Madame Roland déclare que les femmes, c'est trop tôt qu'elles rentrent dans l'espace politique. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas éduquées. Donc il y a cette idée de l'éducation des femmes, là où Olympe est aussi absolument géniale, c'est qu'elle le sait que les femmes sont comme les hommes d'ailleurs, pas suffisamment éduquées pour être des citoyennes extrêmement actives, mais elle le rappelle, hein, c'est que les hommes ne sont pas forcément mieux éduqués que les femmes. Olympe, elle la place qu'enfin elle occupe aujourd'hui, c'est plus que mérité. Il faut se mobiliser pour qu'on parle d'elle, de son œuvre, de l'ensemble de sa prose, de son cheminement intellectuel. Plus que de littérature, parlons de cheminement intellectuel avec Olympe.
Vous avez commencé à parler tout à l'heure des hommes qui ont soutenu les combats d'Olympe de Gouges. Parmi eux, il y a Condorcet. Quelle est sa parole sur les femmes ?
Comme dirait Elisabeth Badinter, c'est le plus grand des féministes du XVIIIe siècle, et elle a parfaitement raison. Condorcet avec sa femme, Sophie, qu'Olympe a beaucoup fréquenté. Elle était très très proche du couple Condorcet. Il ne cesse de l'écrire, il ne le cesse de le dire, il faut prioriser l'éducation des femmes. Parce qu'elles seront éduquées, elles pourront donc accéder enfin à la cité, c'est-à-dire être des citoyennes actives.
Et Chauderlos de Laclos le disait de manière un peu plus violente. Il disait « c'est de votre faute, les femmes, si vous ne voulez pas vous éduquer, vous resterez esclaves ».
Et Laclos fait effectivement partie de ces penseurs qui ont œuvré à la pensée féministe au XVIIIe.
Alors Olympe de Gouges n'a pas eu qu'un combat féministe, même si ce mot est anachronique, comme nous l'avons dit. Elle se bat pour l'égalité de manière plus générale. Quelles sont ses positions sur l'esclavage et la cause des Noirs, par exemple ?
Alors là, elle est totalement révolutionnaire. Même si elle n'est pas la première à penser la question de la non-place des Noirs et de leur non-droit, elle est résolument contre l'esclavage des Noirs. Elle milite en faveur de l'abolition de la traite négrière et de toute forme d'esclavage. Le texte, bien avant sa déclaration des droits de la femme, c'est la fameuse pièce de théâtre « Zamor et Mirza » ou « Le Renaufrage » qui est un véritable brûlot politique qui fait de cette pièce de théâtre eh bien, la première pièce anti-esclavagiste et abolitionniste. Mais c'est pas que ça. Et quand je dis qu'Olympe de Gouges, c'est probablement avant tout une philosophe des Lumières. Elle réfléchit à la place des personnes âgées dans la société française. Comment une société doit prendre soin des populations vieillissantes ? Quelle est la place des indigents, des sans-rien, des déshérités ? Rappelons que la future Olympe de Gouges est née bâtarde, c'est-à-dire un individu sans aucun droit, sans aucune légitimité. Et elle réfléchit à toutes ces questions-là avec toujours un sens de la nuance et de la véritable équité. C'est-à-dire qu'elle n'est tendre avec personne, Olympe. Elle n'est pas tendre avec les hommes, elle n'est pas tendre avec les dominants, mais elle n'est pas tendre non plus, par exemple, avec les femmes et plus généralement avec ceux qui sont dominés. C'est-à-dire qu'elle le dit, la révolution doit venir aussi de ces femmes, de ces individus qui doivent prendre leur destin en main.
Vous l'avez dit, Olympe de Gouges est une bâtarde. Elle est née à Montauban, elle monte à Paris, elle s'éduque, mais elle a un parcours qui est presque incroyable pour son époque. Comment c'est possible ? Par la seule force de sa volonté ?
Ah, moi, je pense que son caractère, son parcours de vie explique dès sa naissance, en fait, toutes les formes de ses futures ambitions. C'est une ambitieuse, Olympe. Et elle le revendique. Une femme au 18e qui est ambitieuse et qui revendique d'être ambitieuse, c'est pareil, c'est anachronique, c'est transgressif, ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Son parcours de vie s'explique largement par sa force de caractère. Je sais que quand je dis ça, on n'aime pas beaucoup, mais si, bien sûr, ces femmes qu'on qualifie d'exceptionnelles, elles le sont parce que justement, elles ont un tempérament, un caractère, une volonté qui fait que bah, justement, elles ne sont pas, si j'ose dire, c'est peut-être un poil condescendant, pardon, mais elles ne sont pas ordinaires et elles ne veulent pas rester ordinaires. Pour cela, elles se battent.
Là, je suis tellement d'accord avec vous, Cécile Berly. Mais alors, Olympe s'est battue, mais est-ce qu'elle a gagné des combats ?
De son vivant, aucun. Je dirais même que non seulement elle n'a pas gagné ses combats, mais elle a perdu la vie. Faut bien penser que cette femme, devant ses juges, ne renie aucune de ses idées, est condamnée pour avoir écrit des textes politiques visant, paraît-il, au renversement de la jeune République française. Elle ne renie rien, elle revendique même ses idées, elle a très bien compris ce qui allait lui arriver. Et c'est aussi pour ça que j'œuvre à ma modeste échelle pour qu'elle puisse entrer au Panthéon, parce que mourir pour ses idées, sacrifier sa vie, sacrifier ses libertés, elle qui aimait tant la liberté. Sacrifier sa sérénité, sa tranquillité au service de ses idées. Et quelles idées ? Ce sont celles qui sont au cœur de notre monde contemporain. Je crois que sa place à cette femme, c'est vraiment le Panthéon.
Et pourquoi on ne porterait pas cette idée ici, avec tous les auditeurs d'au cœur de l'histoire, militer, faire une pétition pour qu'Olympe de Gouges entre au Panthéon ?
Virginie, la pétition existe déjà. Il suffit d'aller la consulter, de la signer. Et pour la première fois l'an passé, en 2023, la présidence de la République a émis un avis plutôt favorable, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement refermé le dossier. Pour la première fois depuis 1995, eh bien, le président de la République considère que ce dossier mérite examen. Moi, je serais si heureuse que cette femme puisse être au Panthéon, parce que elle représente aussi ce 18e sans lequel nous ne serions pas les citoyens et les citoyennes d'aujourd'hui. Et je trouve que mourir pour ses idées, mourir la plume à la main, reste quand même, pour des idées universalistes, profondément humanistes, plus qu'humanistes. Jamais elle n'abandonne ses idées et le sens qu'elle veut donner à l'humanité et au rapport entre les êtres.
Vous l'avez dit, même en prison, même face à ses juges, elle ne renie pas ses idées. Comment se comporte-t-elle dans les heures qui précèdent sa mort, du moment où elle est emmenée du tribunal jusqu'à la place de grève?
Elle a été guillotinée place de la Révolution, d'ailleurs. Elle a peur. Faut dire qu'elle a eu un procès très expéditif au cours de laquelle on a eu la volonté de l'humilier. Comme elle n'a pas son avocat, elle en demande un autre et on lui rétorque « Madame, vous avez suffisamment d'esprit pour vous défendre seule ». Et elle a très peur, elle va d'ailleurs se déclarer enceinte. Chose qui était probablement d'ailleurs vraie parce que Olympe est une femme libre, y compris dans son corps et sa sexualité. Pas une courtisane, une femme libre. Et en fait, cette déclaration de grossesse n'est pas observée par une sage-femme et deux médecins. Elle ne cache pas en fait qu'elle a vraiment peur de mourir. Mais c'est terrible de mourir dans les conditions dans lesquelles on a pu la faire exécuter.
Et puis Olympe de Gouges va tomber dans l'oubli. Elle fait partie de ces grands personnages qui sont un peu balayés par les vents de l'histoire au XIXe siècle et par les historiographes de cette période. Comment retrouve-t-elle la lumière? Comment? Pourquoi? Quand? Qui retrouve ces textes?
C'est pas en France qu'on la redécouvre. Ça va être en premier lieu donc dans le monde anglo-saxon, Angleterre, Allemagne et puis surtout aux États-Unis. Parce que c'est là justement que le féminisme en tant que courant politique et militant se forme. Et donc on va redécouvrir cette femme et sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est un texte totalement avant-gardiste. Quand on commence à creuser, on se dit mais c'est quand même la première à lier la question des femmes à celle des Noirs. Cette question qu'on a qualifierait aujourd'hui de minorité. Donc évidemment, il y a une telle modernité. Je crois qu'elle est beaucoup trop moderne pour la plupart des intellectuels français. C'est pour ça qu'en fait, Olympe de Gouges est aussi très maltraitée en France.
Encore aujourd'hui ?
Alors, ça commence depuis le début des années 80 et aux travaux tout à fait fondateurs d'Olivier Blanc. On redécouvre Olympe. La féministe Benoît Groot lui a consacré un ouvrage. Mais ça va très, très lentement. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'historiens encore sont très condescendants à l'égard de cette femme. Et moi, ça me fâche toujours beaucoup parce que si, quand on la lit, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, ses idées sont d'une telle beauté, d'une telle humanité, qu'elle échappe encore, je crois, aux grilles des historiens. Mais je suis, pour une fois, très rassurée et je me dis que Olympe va bientôt avoir toute sa place, la sienne, celle pour laquelle elle s'est battue de son vivant au XVIIIe siècle.
Elle agace finalement. Trop de caractère, trop de présence. Moi, je me souviens avoir lu des textes où on la décrit pendant la fête de la Confédération, en train de pérorer, la poitrine sortie, le dos bien droit. Enfin, elle est trop sûre d'elle, en fait.
Que n'a-t-on pas dit d'elle ? Déjà, on l'a beaucoup attaquée sur sa beauté. On l'a beaucoup attaquée sur le fait que c'était une femme de lettres analphabète. On l'a beaucoup attaquée, évidemment, sur ses mœurs. C'est-à-dire que, puisqu'elle est libre, elle est forcément libertine, pour ne pas dire prostituée. On l'attaque surtout sur sa façon d'écrire, sur sa façon de s'exprimer. N'oublions pas qu'elle est de la région occitane, ça veut dire qu'elle a un accent méridional. On l'a attaquée sur le fait qu'elle était tout simplement beaucoup trop visible dans cet espace public. Pour les hommes, et j'insiste, les femmes de son temps, tout était trop avec elle. Il faut bien comprendre aussi qu'elle elle n'a pas peur du danger. Elle le brave toujours et qu'elle a aussi ce contrôle de soi en toutes circonstances, qui fait qu'évidemment, eh bien, ça déconcerte.
Elle n'est pas ordinaire, comme vous l'avez dit. En montant sur l'échafaud, elle aurait prononcé cette phrase « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Est-ce que c'est l'entrée au Panthéon qui vengera sa mort alors ?
Ah oui, probablement. Mais encore une fois, pour moi, c'est sa place.
Eh bien, on finira sur cette belle phrase et on va tout faire pour que Olympe de Gouges entre au Panthéon. Rappelons que le Panthéon est créé pendant la Révolution française, qu'on y a fait rentrer les premiers grands hommes de la Révolution, mais pas les grandes femmes de la Révolution.
Certainement pas.
Merci Cécile Berly, merci. C'est toujours tellement éclairant et passionnant de discuter avec vous du XVIIIe siècle. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Guillotiné, qui fait un panorama de ces grandes femmes qui ont fini sur l'échafaud pour avoir peut-être trop parlé, trop donné leur avis pendant la Révolution française. Mais vous venez aussi de sortir un nouveau livre aux éditions Passé Composé. Elles écrivent, on en dit un petit mot, c'est qui c'est elles ?
Elles sont neuf, il n'y a pas Olympe dedans. Mais il y a par exemple Madame Roland, il y a des impératrices, des femmes de pouvoir, des amoureuses, des bourgeoises, des salonnières. Et ces femmes écrivent continuellement.
Comme quoi, la plume n'a jamais été réservée qu'aux hommes. Donc à lire absolument, elles écrivent. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio à la production, Caroline Garnier à la réalisation, Nicolas Gaspard à la direction artistique, Julien Tarot à la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis à la communication et à la diffusion, Marie Corpet et Nathan Laporte. Et moi, je vous retrouve tous les jours en podcast sur l'application Europe 1 ou sur votre plateforme d'écoute préférée et chaque week-end sur Europe 1 à l'antenne à 15h. À très bientôt.